Psaume 37, pardon. Psaume 37, versets 37 à 40. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est retranché. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils se réfugient en lui. Puis une deuxième lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, dans les Béatitudes. Matthieu, chapitre 5, juste un verset, le verset 9. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et enfin, le texte clé pour la prédication de ce matin dans l'épître de Jacques, chapitre 3. Les versets 13 à 18. Jacques 3, à partir du verset 13. Jacques 3, 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole inspirée de Dieu. C'est le moment pour les enfants de sortir pour l'école du dimanche. Et je vous annonce en même temps que tout de suite à la fin du culte, au moment des annonces, les autres enfants ou les ados qu'ils désirent pourront aller avec Émilie répéter le chant pour Pâques. Donc comme ça, vous le savez, tout de suite au moment des annonces, vous pouvez aller dans la salle d'école du dimanche et retrouver Émilie. Merci Tim, je te laisse la place. Je vais prendre un questionnaire.
Bonjour à chacun, c'est un plaisir d'être avec vous. Désolé de vous avoir perturbé avec ces feuilles vertes, mais peut-être que vous vous souvenez que quand je fais une petite série, ben c'est la même couleur chaque fois. La dernière fois, c'était violet, je crois. Donc voilà, c'est vert cette fois-ci. C'est un peu le printemps qui arrive, tant mieux. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, la Bible est comme un puits sans eau pour nous. Nous comptons donc sur son œuvre ce matin, afin que personne ne vienne à ce puits sans être désaltéré. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, la présentation d'un outil biblique que nous pourrons développer par la suite ensemble, Dieu voulant, l'enseignement de l'artisan de paix, qui a déjà permis à bien des personnes de vivre de merveilleux changements basés sur la parole de Dieu. Et nous trouvons ce terme d'artisan de paix dans Jacques 3, 18, que nous avons entendu tout à l'heure dans la version Colombe ou la Nouvelle Bible Second. Les autres versions traduisent ainsi ceux qui cherchent la paix, ou encore ceux qui procurent la paix, ou ceux qui s'adonnent à la paix, ou encore ceux qui aiment la paix, ceux qui travaillent à la paix, ou encore ceux qui font œuvre de paix. Donc c'est toutes des traductions qu'on trouvait de ce verset-là. Et en fait, un artisan de paix, c'est tout cela. Le texte de Jacques, qui nous intéresse tout particulièrement, nous permettra de comprendre que l'artisan de paix sème des bonnes choses et il est rempli de la sagesse d'en haut. Et c'est la raison qui lui permet de semer de bonnes choses. C'est-à-dire le titre de cette prédication, l'artisan de paix rempli de la sagesse d'en haut. Nous allons voir premièrement les caractéristiques de cet artisan de paix décrit par Jacques. Il est rempli de la sagesse d'en haut, on verra ce que cela signifie. Ensuite, nous continuerons à réfléchir à ce qu'est la paix. On parle de paix, alors de quelle paix s'agit-il? Ensuite, je vais vous indiquer pourquoi nous sommes tous, en tant que chrétiens, appelés à être des artisans de paix. Et nous terminerons par vous présenter un outil de la main de l'artisan de paix rempli de la sagesse d'en haut. Ce sera un petit peu une rampe de lancement pour la suite. Donc c'est le menu de ce matin de la prédication sur la présentation de l'artisan de paix. Et cet enseignement complet de cette main que nous utilisons nous permet de comprendre que nous trouvons dans la Bible tous les outils utiles, pratiques et très concrets pour gérer les relations, comprendre, prévenir et résoudre les conflits. Alors, quand je dis conflit, ne pensez pas simplement à des gros conflits. Non, mais à tous les petits grincements de dents, tous les petits énervements, les petites irritations. Parce que celui qui saura comprendre et faire face et résoudre les petites choses sera mieux équipé pour les plus grandes. Allons donc observer ensemble les caractéristiques de cet artisan de paix proposé par Jacques. Donc, c'est notre premier point, les caractéristiques de l'artisan de paix rempli de sagesse d'en haut. Jacques vient de donner un enseignement sur la puissance de la parole. Alors, si vous avez déjà lu l'épître de Jacques, vous vous souvenez peut-être du mort dans la bouche des chevaux, ou du feu qui embrase les forêts, ou du petit gouvernail qui gouverne le bateau, et cela représente la langue, hein, la puissance de la parole. Et si vous n'avez encore jamais entendu cela, eh bien n'hésitez pas à lire Jacques 3. Au chapitre 4, il parlera de l'origine des querelles. Au début de ce chapitre, un élément important pour pouvoir en sortir. Il faut connaître l'origine pour pouvoir en sortir. Nous en parlerons par la suite. Et entre l'utilisation de la langue et l'origine des conflits, Jacques nous parle de l'artisan de paix, de l'homme sage et intelligent. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Pour commencer, Jacques parle de l'inverse de la paix. Vous voyez ce qui est dit dans les versets 14 à 16. Hein, donc, si vous avez vos Bibles ouvertes dans Jacques 3, c'est une bonne idée. Donc, Jacques 3, les versets 14 à 16, et il nous montre en fait l'inverse de ce qu'est l'artisan de paix. Au verset 16, il fait même des mathématiques. Il pose une équation. La voici. Jalousie plus rivalité égale désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Jalousie plus rivalité égale désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La jalousie dont il est question ici se caractérise par de l'envie ou de la haine lorsque nous voyons quelqu'un jouir d'un avantage qu'on ne possède pas, que l'on aimerait posséder exclusivement. En fait, la jalousie ne cherche pas le bien de l'autre, mais son propre bien par-dessus tout, et un bien selon sa conception. Alors l'artisan de paix va combattre la jalousie dans son cœur déjà. L'artisan de paix va combattre la jalousie dans son cœur. Et je vais vous dire comment. Lorsqu'il détecte en lui qu'il y a une jalousie, il accepte que c'est un péché. Il accepte que c'est un péché et va se faire laver au seul endroit possible. Il se repent de son péché auprès de Dieu et reçoit le pardon de Christ qui a payé pour cela. Et pour prévenir la jalousie, puisque quand on se repent, vous le savez, c'est pas juste je me repens et je recommence. On cherche à prévenir. Et pour prévenir la jalousie, s'en éloigner, eh bien l'artisan de paix apprend à connaître tout ce qu'il a en Christ. Et en se rendant petit à petit compte qu'il n'a rien à envier du tout à quelqu'un d'autre, qu'il a tout pleinement en Christ, eh bien la jalousie va aussi diminuer. Voilà comment l'artisan de paix combat la jalousie. De même pour la rivalité, aussi traduit par esprit de dispute, qui ne fait pas partie de ce qui est acceptable pour l'artisan de paix. L'artisan de paix combat la rivalité dans son cœur déjà. Comme la jalousie, lorsqu'il le détecte, il confesse que c'est un péché. Cette rivalité est un péché. Et il va saisir le pardon de Dieu par la foi. Et pour prévenir la rivalité, eh bien, il accepte la place que Dieu lui donne selon les capacités qu'il a reçues. Si Dieu est souverain, il m'a placé là où il le veut maintenant. Et il se met au service du divin maître et du bien commun. Et celui qui est humble, qui croit en la souveraineté de Dieu, n'a pas à s'inquiéter de la place où il est. Il sert Dieu de tout son cœur où il est, jusqu'à ce que Dieu le mette à un autre endroit. Nous avons donc compris que c'est versets 14 à 16 de Jacques 3 que l'artisan de paix s'écarte de la jalousie et de la rivalité qui ne produisent que du désordre et qui sont caractéristiques de la sagesse terrestre, charnelle, démoniaque. C'est ce qui est écrit dans le texte. Donc je ne peux que nous encourager, je dis nous, hein, moi je vous écoute en même temps, enfin je m'écoute en même temps, je suis avec vous. Je ne peux que nous encourager, nous pousser, nous inciter, nous implorer. Aucune jalousie ou rivalité dans notre vie ne devrait être acceptée. Sinon, nous ne pourrons pas vraiment vivre en artisan de paix. Cet artisan de paix est rempli de sagesse d'en haut. Et quelle merveille que cette sagesse! Je vais vous faire un peu rêver maintenant, hein, parce que Jacques nous l'a décrit, et j'aimerais que vous imaginiez que quelqu'un vit à côté de vous et qu'il vit exactement ce que je vais vous décrire. Hein. Donc ça va, vous arrivez à imaginer quelqu'un à côté de vous qui vit exactement ce que je vais vous décrire. Cette personne est pure, c'est-à-dire qu'elle ne pense pas du mal de vous. Elle ne pense pas à vous faire du mal. Elle ne pense pas à faire de faute. Elle est pure. Elle est pacifique. C'est-à-dire qu'elle aime la paix. Elle est paisible. Non seulement cela, mais elle est aussi modérée. C'est-à-dire qu'elle est pleine de douceur, de courtoisie, de tact, d'indulgence. Elle est conciliante. C'est-à-dire raisonnable. Accommodante, ne cherchant pas à exprès donner un avis contraire pour voir si... Non. Conciliante. Elle est pleine de miséricorde, cette personne. C'est-à-dire qu'elle est remplie de compassion. Elle a le cœur sensible. Elle est poussée à aider lorsque nous sommes dans la détresse. Cette personne est pleine de bons fruits. C'est-à-dire remplie de vertus, débordante du fruit de l'esprit. Vous connaissez le fruit de l'esprit, hein, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Cette personne est sans partialité, c'est-à-dire sans équivoque. Elle n'est pas partisane, elle ne nous trompe pas. Elle est sans hypocrisie, elle est sincère. Elle est vraie. Elle pense ce qu'elle dit. Vous imaginez cette personne? Quel bienfait de vivre en fait à côté d'un artisan de paix rempli de la sagesse d'en haut. Parce que l'artisan de paix est rempli de la sagesse d'en haut qui est pure, pacifique, modérée, conciliante et pleine de miséricorde, pleine de bons fruits. sans partialité, sans hypocrisie. Et l'artisan de paix montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de sagesse et de douceur. Donc l'artisan de paix est rempli de la sagesse d'en haut qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, pleine de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. En passant, ceux qui ont l'habitude savent que quand je répète deux fois une phrase, c'est qu'il y a des choses à remplir sur la petite feuille verte. Mais vous êtes d'accord? Quelle joie, quel encouragement d'avoir des personnes telles que cela autour de nous, non? Vous aimeriez pas avoir des personnes comme ça autour de vous, qui vous entourent, hein? Eh bien, ne pensez plus à quelqu'un d'autre. Car c'est vous qui êtes appelé à être cet artisan de paix. Vous connaissez la règle d'or laissée par Jésus. Dans les camps, on prend cette règle d'or dès le début. Je leur dis, vous connaissez Matthieu 7,12? Matthieu 7,12, il est dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Alors avant de vous montrer, parce que je vais vous montrer que chaque chrétien est appelé à être un artisan de paix, j'aimerais m'arrêter sur ce que signifie la paix, parce qu'il ne faudrait pas que l'on se fourvoie et qu'on ne parle pas de la même paix, en fait. Donc nous allons prendre ce deuxième point comme promis, qu'est-ce que la paix ? Et nous allons un petit peu réfléchir à ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas pour mieux la saisir. La paix n'est pas seulement une absence de conflit. La paix n'est pas seulement une absence de conflit. La paix, c'est la présence de la justice dans de saines relations. Et la différence, hein, c'est pas juste l'absence de conflit, c'est la présence de la justice dans de saines relations. La paix n'est pas une fin. C'est pas juste comme à la fin d'une guerre ou bien une trêve, hein, on fait une trêve, on s'arrête un petit moment là, c'est la fin, c'est la paix. Non, la paix n'est pas une fin, c'est la réconciliation des ennemis qui les conduit dans une relation empreinte d'amour et de respect. Donc la paix, c'est la réconciliation des ennemis. Troisièmement, la paix ne se vit pas au détriment de la justice. Donc la justice, on l'oublie, on fait la paix, c'est pas ça. La paix ne se vit pas au détriment de la justice. La paix se vit dans la justice. L'artisan de paix sème le fruit de la justice, Jacques 3,18. Et quatrièmement, la paix n'est pas séparée de la pureté, de la vérité, de l'amour, de la fidélité, de la sainteté. La paix n'est pas séparée de la pureté, de la vérité, de l'amour, de la fidélité, de la sainteté. En fait, la paix est accompagnée de la sagesse d'en haut. La paix est accompagnée de la sagesse d'en haut et de toutes les vertus chrétiennes. C'est de cette paix-là que nous parlons. Il ne s'agit pas simplement de nous laisser tranquilles, ou vulgairement dit, de nous foutre la paix, de nous laisser tranquilles. On ne parle pas de cette paix-là. Il s'agit d'une paix profonde, une paix durable, une paix qui porte des fruits. Peut-être que vous connaissez ce petit chant qui dit « Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. » Enfin, bon, je m'arrête là. C'est de cette paix-là qu'il s'agit. La paix qui vient de Dieu, une paix centrée sur Dieu. C'est la paix de Dieu dont nous parlons, une paix théocentrique, si vous voulez utiliser un terme théologique. Une paix centrée sur Dieu, une paix qui vient de Dieu, une paix selon Dieu, une paix qui découle de la paix avec Dieu. Ce n'est pas une paix que nous pouvons produire. C'est une paix que nous allons vivre. Il est dit dans Romains 5, les versets 1 et 2, c'est un texte qui est juste fabuleux par rapport à ce sujet-là. Il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez bien compris? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il continue, c'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Cette grâce, la paix avec Dieu, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. En fait, selon ce passage de Romains 5, 1 à 2, nous avons la garantie que nous avons une complète réconciliation, la paix totale avec le Saint souverain des cieux et de la terre. Celui qui est justifié ne doit plus imaginer que Dieu est en colère contre lui qui lui est hostile. Non, Dieu est en paix avec ceux qui sont justifiés en Christ. Comprenons bien la chose ici. La paix de Dieu, ce n'est pas premièrement la paix dans notre âme, un sentiment de paix, même si cela en fait partie. La paix avec Dieu, c'est la cessation des hostilités, l'établissement d'une relation paisible entre nous qui sommes rebelles pécheurs et le juste souverain omnipotent. Il est dit dans Éphésiens que nous étions par nature des enfants de colère. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, Éphésiens 2:13. Il est dit dans Colossiens 1, « Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Donc c'est la paix avec Dieu, notre source, notre moteur et notre joie. Et nous ne devons plus avoir peur de nous approcher de lui lorsque nous péchons. Toute la juste colère qui reposait sur nous, qui nous repentons, est tombée sur son Fils. Nous devons donc nous approcher avec confiance devant lui, sans peur d'être rejetés. C'est la paix que procure l'Évangile de Jésus-Christ. Ah, une question importante. Connaissez-vous cette paix? Comment pouvons-nous connaître cette paix, en fait? Voilà que demain, un collègue de travail dit, qu'est-ce que vous avez fait hier? Ah ben, j'étais au culte, j'ai entendu une prédication sur la paix. Ah d'accord. Puis comment on peut être en paix? Je vais vous donner quelques idées. En entendant et en acceptant l'évangile de Jésus-Christ par la grâce de Dieu, évidemment. Ça, c'est le résumé. Et accepter l'évangile produit cinq choses. Vous pouvez prendre ces cinq choses avec vous, pourquoi pas. Cinq verbes. Les prendre avec. Premièrement, reconnaître, premier verbe, que nous sommes des créatures qui ont offensé le Créateur à qui nous devons rendre gloire en toute chose. La première chose, reconnaître. Deuxièmement, avouer. Avouer que nous sommes pécheurs, sans aucun mérite devant Dieu. Nous n'avons aucune œuvre personnelle qui pourrait venir nous purifier. On n'a pas le savon qui lave le cœur. Et quelque part, on doit l'avouer. Tant qu'on ne l'avoue pas, on cherchera à le faire par nous-mêmes. Reconnaître, avouer. Troisièmement, rechercher. Rechercher la miséricorde de Dieu par la repentance face à notre péché. Nous regrettons et nous mettons tout en place pour nous en détourner. Donc nous savons là comment le faire. Je ne peux pas le faire, mais je vais rechercher la miséricorde de Dieu. Quatrième verbe, croire. Croire que Jésus a pris la juste colère de Dieu qui pesait sur nous. Il a payé le prix de la peine de nos péchés et a vécu une vie parfaite à notre place. Quatrièmement, croire. Et cinquièmement, vivre. Vivre selon la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Le Saint-Esprit nous purifie, il applique l'œuvre de Christ à notre vie de manière à ce que nous soyons en paix avec Dieu. Donc vivre la nouvelle nature, la nouvelle situation dans laquelle nous sommes avec Dieu. C'est ça l'Évangile. La libération de l'esclavage du péché pour une vie totalement centrée sur celui qui ne nous veut que du bien. Et avec qui nous sommes en paix par Christ. Ainsi, nous sommes rendus capables d'être des artisans de paix. C'est ainsi que nous allons pouvoir vivre les artisans de paix. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà reconnu vos torts face à Dieu? Avez-vous déjà reconnu vos péchés? Vous êtes-vous repenti de vos péchés et continuez-vous à le faire? Croyez-vous que Jésus a payé à votre place le juste jugement de l'enfer qui vous était destiné? Bien, moi, je prie que ça soit le cas pour chacun d'entre vous et que dans vos cœurs, ça soit une joie qui bouillonne parce qu'il a pris votre place et qu'il est maintenant votre Seigneur et votre Sauveur. Qu'il a pris la colère de Dieu qui reposait sur vous. je prie que chacun puisse témoigner de cela. Parce que si ce n'est pas vrai, ce n'est pas la paix, mais la colère de Dieu qui repose sur celui qui n'accepte pas l'évangile de Jésus-Christ. En fait, il y a deux possibilités. Soit la colère de Dieu repose sur vous, soit sa paix. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre deux. Et sa paix ne peut reposer sur vous que si vous êtes converti à Jésus-Christ, transformé par l'œuvre de son esprit. Alors avec Paul, en 2 Corinthiens 5, 20, et vous l'avez peut-être déjà fait pour ceux qui sont en Christ, avec d'autres personnes, mais je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. C'est le chemin qui va nous mener sur la vie de l'artisan de paix. Tant qu'il n'y a pas cette réconciliation, vous essayerez, vous ne pourrez le vivre. Mais étant réconcilié avec Dieu, vous serez en paix avec lui et vous pourrez puiser dans cette paix pour être vous-même des artisans de paix. Alors, comme promis tout à l'heure, nous arrivons à notre troisième point où je vais vous indiquer que tout chrétien est appelé à être un artisan de paix. Ce n'est pas juste un petit apprentissage d'artisan que certains font. Hein. Tout le monde est appelé à être artisan de paix. Et j'aimerais vous donner quatre raisons qui nous indiquent que chaque chrétien est appelé à être un artisan de paix. La première, c'est que celui qui est chrétien est habité par le Saint-Esprit. J'espère que c'est clair, je ne vais pas reprendre Romains, expliquer tout ça. Hein, mais... Donc, celui qui est chrétien est habité du Saint-Esprit et porte du fruit. Et ce fruit de l'Esprit, vous le connaissez, on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein, si jamais, ben, venez dans Galates, comme ça vous le voyez sous vos yeux. Hein, Galates 5, verset 22, comme ça on a ça sous les yeux. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix. Et ben voilà, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Donc une première raison qui indique que chaque chrétien est appelé à être un artisan de paix est que cela manifeste le fruit de l'esprit dans nos vies. Celui qui est chrétien porte du fruit, la paix fait partie de ce fruit, donc le chrétien est appelé à être un artisan de paix. Deuxième raison, c'est 2 Corinthiens 5 qui va nous y aider. Donc je vous invite à regarder dans 2 Corinthiens 5. Et nous lirons les versets 17 à 20. En nous souvenant que se réconcilier, on peut aussi dire, c'est faire la paix. Faire la paix, se réconcilier, c'est quelque chose qui est similaire. Ça nous aide à le saisir. Donc on pourrait appeler un artisan de paix un réconciliateur. Ça irait aussi en fait. Donc lisons ce texte de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ... Voilà, c'est posé, hein, là, si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés, qui a fait la paix, hein, avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. D'être des artisans de paix. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc une deuxième raison qui indique que chaque chrétien est appelé à être un artisan de paix, c'est que Dieu nous le demande. Dieu nous le demande. Il nous a donné le service de la réconciliation. Et c'est clair que quand on vit et qu'on voit et qu'on encourage la réconciliation, c'est la joie lorsque cela est vécu. Troisième raison. Lorsqu'il y a de l'amour, il y a la paix. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, il n'y a généralement pas de paix. Jésus a laissé un commandement très clair à ses disciples en disant « Je vous donne un commandement nouveau ». Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc ma troisième raison qui indique que chaque chrétien est appelé à être un artisan de paix, c'est que cela manifeste notre appartenance à Christ. Nous cherchons à nous aimer les uns les autres, nous cherchons à être en paix les uns avec les autres, ce qui va manifester notre appartenance à Christ de manière publique. Et tous reconnaissent que nous sommes disciples à l'amour que nous avons les uns les autres dans l'Église. Et l'amour se vit dans la paix. Sans paix, pas possible de nous identifier comme disciples de Christ, alors que les artisans de paix sont reconnus comme disciples de Christ. Et quatrième raison, c'est que le chrétien fait partie d'une nouvelle culture qui est internationale, la culture de la paix. Dans cette culture, les gens ont à cœur de vivre la puissance de la réconciliation de l'Évangile. Les conflits sont basés sur l'Évangile qui parle de repentance et du pardon. Donc la quatrième raison qui indique que chaque chrétien est appelé à être un artisan de paix, c'est que c'est ainsi que l'Évangile est vécu et proclamé par l'Église de manière visible et puissante. C'est ainsi que l'Évangile est proclamé et vécu par l'Église de manière visible et puissante. Et j'aimerais vous donner le résultat, en fait, d'une famille ou d'une Église ou tout autre groupe d'artisans de paix ensemble selon la Bible. Vous savez ce qui se passe dans un groupe comme cela ? Eh bien, la joie de la communion fraternelle profonde et sans frein lorsqu'il y a la paix. Un témoignage puissant de l'Évangile. Je parle de la paix que Dieu donne, nous la vivons. Tout le temps, non, parfois je fais faux et je demande pardon. Et par le pardon, j'entre dans ce chemin de réconciliation. Dieu n'a jamais demandé la perfection. Il a demandé de courir à la croix dès que vous voyez que vous péchez. C'est lui la perfection. Nous voyons aussi dans un groupe d'artisans de paix la sérénité et l'accueil chaleureux de toute personne qui cherche Dieu. Quelqu'un qui vient, par exemple, ici, vous êtes tous des artisans de paix, quelqu'un qui vient ici, il va se sentir apaisé, il ne va pas se sentir agressé. Alors que s'il commence à sentir des tensions, à voir des gens qui commencent à se crier dessus dès que le culte est terminé, ce que je n'espère pas, je ne pense pas, mais juste pour vous donner un peu la notion, quand on n'est pas en paix, eh bien, ça désécurise. Et dernièrement, une bonne santé spirituelle permet une maturité grandissante. Lorsque nous ne sommes pas en paix, nous n'arrivons pas à grandir. Nous avons besoin d'être en paix les uns avec les autres. Donc quel puissant résultat de vivre en artisan de paix. Et voici d'ailleurs un témoignage d'un jeune homme qui m'a écrit suite à un enseignement sur l'artisan de paix. Voici ce qu'il m'écrit. Après les cours, j'ai eu pas mal de réflexions par rapport à ma vie. Et j'ai pu, avec l'aide de Dieu, demander pardon à mes parents, ce qui a été une grande source de soulagement pour moi, et a fait grandir les relations que j'avais avec eux, surtout avec mon père. Être artisan de paix au quotidien reste un défi pour moi, surtout pour mon orgueil, mais un défi que j'apprécie relever chaque jour avec l'aide de Dieu. Être artisan de paix change les relations, jusque dans la famille, dans l'Église. C'est puissant. Mais comment travaille cet artisan de paix rempli de sagesse d'en haut qui sème le fruit de la justice? Alors par notre dernier point aujourd'hui, j'aimerais vous permettre de découvrir ce que j'appelle la main de l'artisan de paix. Vous serez de toute façon un peu frustrés, je vous l'avertis déjà, parce que je n'aurai qu'un début de tout cela, d'enseignement. Mais même avec ce début, on peut déjà faire un bout de chemin dans nos vies. Vous trouverez donc sur les petites feuilles vertes derrière une petite illustration d'une main, qui permet en fait de se souvenir de ces différents éléments. Or, la main, elle est rattachée au corps. Ça, vous arrivez à le voir. Hein. Donc, si j'enlève ma main, là, tac, je la coupe, je la jette, ben, elle ne sera pas très utile. Vous avez compris cette notion. Donc, la main, elle est rattachée au corps. Et donc, l'artisan de paix se dit que sa main de paix qu'il va utiliser est rattachée à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait dans sa vie, tous les outils qu'ils utilisent, viennent puiser dans l'œuvre de l'Évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est un élément fondamental. Vous remarquerez d'ailleurs aussi que tous les éléments des outils de l'artisan de paix commencent par la même lettre. C'est simplement pour que ça nous aide à nous en souvenir plus facilement. C'est tout des R. Hein? Et donc le R de base, ben, comme évangile c'est un E, ben, j'ai parlé de rédemption. Comme ça, c'est... Donc quand on parle de rédemption, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, donc l'évangile de Jésus-Christ, c'est le R de base. Et ensuite il y a un R, un R2, R3, mais le R il est là toujours, l'œuvre de rédemption est présente dans tout ce que l'on vit. Et donc le premier outil ou la première habitude de l'artisan de paix, c'est de rendre gloire à Dieu. Ça, c'est une attitude, une habitude de l'artisan de paix importante. Et quel est le lien, en fait, avec l'Évangile ? C'est qu'en fait, l'artisan de paix est tellement conscient de la grandeur, de la merveille de l'Évangile, de ce qu'il a vécu en Jésus-Christ, qu'à chaque instant de sa vie, ce qu'il veut, c'est le glorifier. Je vous assure, quand vous saisissez un tout petit peu la grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ, on se dit, mais il faut qu'on le loue. Il faut qu'on vive à sa gloire. Et donc c'est ça qui va le motiver et se demander à chaque instant, est-ce que là maintenant je suis en train de glorifier Dieu ? Non, Seigneur, je viens vers toi, je veux te glorifier, donne-moi la force, la grâce, ou je te demande pardon parce que j'étais en train de faire tout, j'étais dans une toute autre idée, je faisais mon travail mais pour moi-même, au lieu de faire mon travail le mieux possible pour te glorifier, etc. Pourquoi ? Parce que cela va changer notre manière dans nos relations. Si vous faites votre travail pour vous et pas pour la gloire de Dieu, si quelqu'un vient vous embêter dans votre travail, alors là, pouh ! Si vous faites ça pour la gloire de Dieu, vous dites, attends, mais l'autre, il vient, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans cette situation-là ? Puis c'est pour lui que je le fais. Bon, je m'arrête, je suis déjà en train de développer l'histoire. Et donc, rendre gloire à Dieu, tous ces éléments, tous ces outils sont chaque fois basés sur un passage, la parole, pour qu'on puisse être vraiment lié à cette parole. Et cette parole, pour le premier, c'est 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit ceci simplement, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est notre motivation. La deuxième habitude, c'est le cinquième doigt sur la petite image. Donc le premier et le cinquième, ce sont des habitudes que l'on vit en fait à tout moment, qu'il y ait un conflit ou pas. C'est pas ça qui doit le faire. Par contre, ça sous-tend tout ce que nous vivons. La deuxième habitude, c'est de rechercher constamment la réconciliation avec tout le monde. Qu'il n'y ait dans ma vie aucune relation non réconciliée, parce que Dieu m'a réconcilié avec lui et m'a donné le merveilleux service de la réconciliation. Et même si l'autre ne veut pas, je chercherai constamment à lui faire du bien. Pourquoi ? Parce que je veux vivre Romains 12, 21, qui nous dit « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » On parlera de cette situation-là quand on parlera du dernier R. C'est pas quelque chose de facile. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que je dis, c'est facile. Mais c'est la direction que Dieu nous donne dans sa parole. Et c'est toujours la meilleure. Le premier R de la main de l'artisan de paix, c'est rendre gloire à Dieu. Le cinquième, donc, rechercher la réconciliation. Ça entoure les trois autres comme un sandwich. Et les trois autres, en fait, c'est comment réagir lors d'un conflit. Hein ? Et donc, c'est dans cet ordre-là. La première chose, c'est retirer la poutre. Retirer la poutre. Qu'est-ce qui nous motive dans l'Évangile ? C'est qu'en fait, l'Évangile de Jésus-Christ nous indique que nous pouvons nous repentir de nos péchés, et non seulement nous pouvons nous repentir, mais qu'est-ce qui se passe quand vous allez devant Dieu, face à Jésus-Christ, et vous demandez pardon ? Que fait-il ? Reviens demain. Mais non, il nous pardonne. Nous avons l'assurance du pardon de Dieu. C'est pour cela que nous ôtons notre poutre. Si nous n'avions pas l'assurance d'être pardonné, je pourrais comprendre que, est-ce que je vais parler de ma faute là ? Je ne sais pas si je serai pardonné. Dieu va nous pardonner. C'est un élément fondamental et c'est ce qui nous pousse à vivre cela. Pourquoi ? Parce que c'est Matthieu 7,5 qui nous le dit. Hein. Il dit ceci, hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil et alors tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Ensuite, une fois retiré sa poutre, c'est possible que, donc la repentance vécue, etc., il est possible que l'autre a aussi péché, en fait. C'est possible. Mais là, c'est l'Évangile qui doit nous pousser. C'est pas « je te montre comme t'es mauvais ». Non, c'est plutôt « je connais l'Évangile, j'ai envie que tu sois libéré de ton péché ». C'est ça notre motivation. C'est pour ça qu'on va vivre le « redresser avec douceur ». après avoir retiré la poutre, c'est redresser avec douceur. Comme nous le dit Galates 6.1 qui nous dit « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, vous connaissez la suite ?» Redressez-le avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. On aimerait aller plus loin là, hein. Je vous ai dit, c'est un peu frustrant, mais ça fait rien, ça vous donne déjà les directions. Hein. Et la troisième chose, et je vous dirais que la troisième chose, elle va avec la deuxième. Hein, quand on va redresser avec douceur, on prend déjà avec nous le pardon. On le prépare. Donc, c'est quand on va vers son frère qui a péché, on est motivé par l'évangile de Jésus-Christ. Notre but, c'est qu'il vive ce que nous avons vécu. Moi, j'ai été pardonné. Je désire aussi qu'il puisse le recevoir. Et je vais même chercher le pardon vers Dieu. Parce que je vous assure que moi, des fois, je n'ai pas envie de pardonner à l'autre. Mais Dieu nous donne cette grâce et cette force. Et je vous le démontrerai par la suite. Donc, reconstruire par le pardon. Et pourquoi ? Parce que c'est Éphésiens 4:32 qui nous le dit. Ça, c'est un texte que j'ai toujours trouvé extrêmement fort, en fait. Il est dit ceci. Donc, faire grâce et pardonner, c'est similaire. Hein. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement. Jusque-là, c'est déjà pas facile. On est d'accord ? Écoutez la suite. Comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Wow. Je vous expliquerai ça par la suite. Mais un petit truc, si vous voulez déjà un peu avancer là-dessus, je vous conseille, prenez votre Bible et regardez comment Dieu pardonne. Faites juste cet exercice, sans rien d'autre déjà. Ça va déjà vous faire beaucoup progresser et beaucoup vous rapprocher de notre Seigneur. Donc les cinq éléments, rendre gloire à Dieu, 1 Corinthiens 10:31, retirer la poutre, Matthieu 7:5, redresser avec douceur, Galates 6.1, reconstruire par le pardon, Éphésiens 4.32, rechercher la réconciliation, Romains 12.21, et bien sûr le tout basé sur la rédemption, sur l'œuvre de Christ, sur son évangile, car il est écrit dans 2 Corinthiens 5.18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. En fait, je viens de vous donner tout le programme de l'enseignement des artisans de paix. Que Dieu voulant, nous allons le faire petit à petit. On se dit, ouais, mais on n'est pas là chaque dimanche, c'est pas grave. Parce que si on le rappelle une ou deux fois par année, ben, ça nous permet chaque fois de revenir, de continuer, de progresser. Et je pense qu'on a déjà plusieurs éléments sur lesquels on peut déjà travailler maintenant. Et j'ai vu des transformations de vie extraordinaires. Pourquoi ? Pas parce que c'est ce sujet comme il est abordé. C'est pas la structure, ça m'est égal. Vous pouvez utiliser une autre structure. Mais parce que c'est la parole qui nous enseigne ces différentes étapes. Et quand on met la parole en action, Dieu agit. En conclusion, quelques réflexions. Quelqu'un a dit, la paix et la réconciliation révèlent la santé de l'Église locale. Elles rendent gloire à Jésus-Christ, elles enrichissent notre témoignage et stimulent la croissance de l'Église. C'est pourquoi il est important d'apprendre à être des artisans de paix selon la parole de Dieu. Des artisans de paix fondés sur l'évangile de Jésus-Christ. Je vais vous donner un résumé condensé. Vous êtes là ? On est presque à la fin, donc je prends votre attention. Parce que non, il y a deux phrases là qui seront très, 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 très denses. Donc si vous êtes déjà un petit peu en train de rêver, ça sera difficile. Donc revenez pour ces phrases. Écoutez bien. Les artisans de paix sont des gens desquels émane la grâce. Les artisans de paix puisent constamment dans la bonté, la puissance de Jésus-Christ et apportent son amour, sa miséricorde, son pardon, sa force et sa sagesse aux conflits de la vie quotidienne. Dieu prend plaisir à insuffler sa grâce au travers des artisans de paix et à les utiliser pour dissiper la colère, améliorer la compréhension, promouvoir la justice et encourager la repentance et la réconciliation. Waouh, vous avez bien tenu la concentration, c'est bien. Mais c'est très très fort ici. Hein. L'artisan de paix est rempli de sagesse d'en haut, qui est pure, vous vous souvenez ? Pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, pleine de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie, il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. L'artisan de paix tire ses ressources de Christ, sur qui il s'appuie pour agir. Alors j'espère que vous êtes motivés à avoir des artisans de paix autour de vous. Ouais, ça, on est motivés. Et donc, de l'être vous-même aussi. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous lisons dans Jacques 3 que tu es celui qui agit dans les cœurs en donnant la sagesse d'en haut, puisque c'est une sagesse d'en haut qui vient de toi. Eh bien Seigneur, nous implorons ta grâce, que cette sagesse d'en haut nous soit donnée à tous tes enfants, afin que nous soyons, Seigneur, ces réconciliateurs. Nous sommes conscients de notre petitesse, nous sommes conscients de notre péché, nous sommes conscients de la difficulté. Et Seigneur, nous savons que ce n'est pas facile, mais nous savons que c'est la direction que toi tu nous donnes. J'aimerais te prier pour ceux qui ne connaissent pas la paix, qui n'ont jamais saisi qu'est-ce que c'est que cette paix avec toi. Eh bien, que tu puisses encore agir dans les cœurs d'une manière puissante, afin que cette paix que Jésus donne puisse vraiment dire oui, je ne la connaissais pas, mais maintenant, je la connais. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.